Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'est dès l'école qu'il faut former les petits Français pour qu'ils apprécient et respectent leur patrimoine. Mais comment agir également pour que dans les campagnes, les belles et vieilles maisons françaises ne tombent pas en ruine? Peut-être en incitant les futurs retraités à s'y installer, et comment cela? En les encourageant fiscalement. Voici édition spéciale, première diffusion sur Paris Inter le 8 juillet 1963.
Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé.
Chef-d'œuvre en péril. Une série d'émissions de Pierre Delagarde.
Dernièrement s'est tenu dans l'abbaye de Royaumont le congrès annuel des vieilles maisons françaises. Les vieilles maisons françaises, les VMF pour les initiés, c'est sans conteste, je le dis non pas pour flatter ses membres mais parce que je le pense vraiment, c'est sans conteste l'association la plus dynamique qui s'occupe de la sauvegarde de notre patrimoine artistique et en particulier de la sauvegarde de nos châteaux et de nos vieilles demeures, de nos demeures anciennes. C'est Madame de Hamodio qui a eu cette idée, l'idée de créer cette association alors qu'il en existait déjà beaucoup. Elle a eu cette idée il y a 3 ans. Et très rapidement, le mouvement qu'elle avait créé a pris une ampleur inespérée car le nombre des membres, vous allez le voir tout à l'heure, le nombre des membres dépasse tous les chiffres atteints officiellement jusqu'à présent dans les associations de sauvegarde des monuments historiques. Alors nous allons tout d'abord demander à la présidente comment lui est venue cette idée géniale et comment elle a su la réaliser.
Cette association est née à Verteuil où nous avons un grand château qui a toujours été dans notre famille depuis l'an 1000, qui se trouve dans un village ravissant. Composé de maisons du 14e et du 15e, dont les propriétaires, quelquefois, ne se rendent pas compte de leur valeur. J'ai eu l'impression qu'il fallait remédier à cette espèce de cassure qu'il y avait dans l'opinion publique, souvent mal avertie de ces problèmes, et qu'il fallait montrer la communauté de goût, d'intérêt et de besoin entre les propriétaires de grands châteaux, de manoirs, d'abbayes et aussi les maisons du village. Voyez-vous, dans notre esprit, le château a besoin de son contexte nécessaire et séculaire que sont les maisons du village.
Oui, alors si je comprends bien, votre association groupe non seulement des propriétaires de châteaux et des demeures historiques, mais aussi des propriétaires de petites maisons, pourvu qu'elles soient anciennes. Vous arrêtez à quel siècle ?
Eh bien, je dois dire que nous nous arrêtons en général. Écoutez, monsieur de Maupoux avait un projet de loi pour de ne pas abattre sans permission les maisons de plus de 150 ans. Plus une maison ancienne, plus nous l'aimons. Est ancienne, plus nous l'aimons, bien sûr. Mais il ne faut pas être injuste pour certaines maisons du 19e qui sont ravissantes.
Dites-moi, il y a quelque chose qui me chiffonne. Pourquoi vous avez appelé votre association les vieilles maisons françaises? Vous trouvez que c'est réussi comme titre? Je veux dire, trop souvent, l'on traite avec mépris les amateurs de vieilles pierres. Pourquoi ne pas utiliser les maisons françaises ou les belles maisons françaises? Car à mon sens, Versailles, c'est aussi récent, c'est aussi neuf, bien plus qu'une architecture de 1930 qui, elle, a passablement vieilli depuis 20 ans.
Eh bien, voyez-vous, j'ai fait ça intentionnellement. J'ai trouvé que vieille maison française ne faisait peur à personne et que ça valorisait ce mot de vieux. Nous sommes étonnés et encouragés et vivifiés par l'accueil que nous rencontrons chez les jeunes. Et nous avons justement voulu donner un nom, vieille maison française, qui est le courage de ce que c'est et qui justement plaît aux jeunes.
J'aimerais simplement savoir combien vous avez de membres à l'heure actuelle.
Nous avons commencé à zéro, nous sommes maintenant 4700 et nous avons 58 délégations régionales et nous avons reçu la reconnaissance d'utilité publique. C'est un grand encouragement et je dois dire, nous en sommes extrêmement heureux.
Bravo madame. La marquise de Hamodio d'ailleurs me fait penser un petit peu à ce personnage de Proust célèbre qui est Oriane de Guermantes. Et je crois que c'est plus un compliment qu'un reproche d'ailleurs que je lui fais là. Mais il n'y a pas uniquement la présidente qui manifeste du dynamisme dans cette association. Il y a aussi et surtout tous les délégués régionaux. Et c'est très important. C'est une association qui marche très bien régionalement. Chaque délégué était présent l'autre jour et chaque délégué a pu présenter des suggestions et présenter aussi des initiatives qu'ils ont pu prendre durant l'année. Deux suggestions intéressantes, nous les avons retenues, ce sont celles du délégué de la Manche, qui est, je crois, M. Tsédoui, et du délégué de la Moselle, M. Tselancy. Tous les deux vont nous présenter ces suggestions. Vous verrez donc que les vieilles maisons françaises ne se contentent pas de palabrer, mais qu'elles ont un rôle utile et réaliste.
Ce serait l'utilisation de ces demeures par des retraités. Et quand j'envisage retraités, je pense par exemple à toute la catégorie des cadres qui prennent leur retraite et qui, par leur éducation, par leurs habitudes de vie, pourraient être très tentés d'avoir à leur disposition des demeures anciennes qu'ils seraient amenés à réparer.
Est-ce que vous avez des chiffres vous assurant qu'il y aurait beaucoup de retraités qui iraient s'installer à la campagne comme ça ?
Oui, d'après les statistiques qui ont été recherchées par différents organismes, on estime que dans les grandes agglomérations, il y a à peu près actuellement 25% des retraités qui, s'ils en avaient les moyens, quitteraient l'agitation des grandes villes pour se retirer à la campagne. Et ceci, en raison du nombre des retraités actuels, représente environ 2 millions. Ces personnes qui occupent des logements dans les villes pourraient trouver certaines combinaisons, certains avantages, certains appuis de la part des pouvoirs publics, d'une part pour acquérir et d'autre part pour réparer. En disant ceci, je pense au fait que pour les constructions nouvelles, les acheteurs des logements nouveaux bénéficient de primes à la construction, d'indemnités d'occupation, et l'on pourrait dire par exemple que des gens qui aspirent à la retraite, à une époque qu'ils connaissent chacun individuellement, pourraient 10 ans à l'avance préparer leur lieu de retraite en constituant durant ces 10 années des résidences secondaires qu'ils utiliseraient avec leur famille pour des vacances, et ces résidences secondaires pourraient bénéficier pour leurs améliorations et aménagements davantage de prêts consentis par l'État ou par des organismes à des conditions relativement basses.
Alors c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des prêts à la restauration comme il y a des prêts à la construction et qu'il faudrait aider aussi bien les vieux ménages qui vont s'installer au moment de la retraite à la campagne que les jeunes ménages qui s'installent au moment du départ dans la vie, dans la ville.
À partir du moment où le retraité ayant pendant 10 ans transformé et réparé cette résidence secondaire qui doit devenir sa résidence de retraite, pourrait, le jour où il viendrait s'installer dans cette résidence définitive de sa retraite, bénéficier d'avantages fiscaux qui pourraient être basés, par exemple, sur la liberté du logement de ville qu'il rendrait à la collectivité en venant, lui, occuper son ex-résidence secondaire qui deviendrait la résidence définitive de sa retraite. Et on pourrait l'exonérer, par exemple, des charges d'impôts fonciers et de cotes mobilières.
Monsieur Tselancy, vous avez eu l'idée à Metz de constituer un fichier photographique. Pourquoi ?
La nécessité m'est apparue de savoir exactement ce que nous avions dans le département, de façon à pouvoir préserver les vestiges du passé qui subsistent dans cette région, mille fois dévastée par les guerres et les invasions diverses.
Oui, dites-moi, alors justement, cela pose un problème, car il faut que vous trouviez à la fois des photographes qui sachent prendre des photos, et c'est pas si facile, et d'autre part, des gens qui soient assez au courant des questions d'architecture.
C'est exactement là qu'est la difficulté. L'idéal serait évidemment d'avoir un personnage qui soit à la fois photographe, archéologue et qui ait le temps de faire ce travail évidemment bénévole. Pratiquement, il est impossible de trouver toutes ces qualités réunies dans un seul et même personnage.
Alors vous avez constitué des petites équipes ?
Alors nous avons constitué des petites équipes.
Combien ?
Actuellement, nous en avons 2 qui fonctionnent. J'espère pouvoir arriver à augmenter le nombre de ces équipes. J'ai actuellement 3 villages entièrement faits. Chaque village représente entre 70 et 100 photos. Je les conserve sous 2 formes. D'abord, diapositives, ensuite un tirage en noir format carte postale. Les diapositives nous permettront de faire des expositions itinérantes grâce auxquelles j'espère pouvoir éveiller l'intérêt du public et pouvoir trouver des vocations de photographes, archéologues dans d'autres coins du département. Il faudrait intéresser les membres du corps enseignant à ce genre d'entreprise parce que c'est à l'école qu'on commence à former le public. Et si les jeunes étaient conscients de l'intérêt de l'héritage du passé, on pourrait éviter beaucoup d'erreurs et beaucoup de gaspillage absolument irréparable.
C'était édition spéciale. Tous les lundis, à la même heure, Chef-d'œuvre en péril, une série d'émissions de Pierre de la Garde.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 8 juillet 1963. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.